sociale, etc., etc. Donc voilà, une communauté, c'est le partage d'un certain nombre de caractères et rien de plus. Il n'y a pas à donner de définition, je dirais, plus substantielle ou plus substantialiste de la communauté. Alors, deuxième remarque, c'est qu'il y a des modules, il y a des facteurs qui vont moduler la nature de la communauté, je dirais, en fonction des types de traits qui sont partagés, des types de caractéristiques qui sont partagées. Alors, premièrement, ce qui va définir la communauté, ce sera la nature des traits partagés. Ensuite, ce sera, deuxième modulation, le caractère réel ou non. Et réel, ça veut plutôt dire géographique, réalité géographique, une coexistence de la communauté dans un certain lieu et éventuellement un certain temps. Et puis, troisième modulation, ça sera, je dirais, le caractère contraignant ou non de la communauté. Donc, je vais m'expliquer sur ces trois modulations et vous allez voir qu'à partir de là, on peut distinguer des communautés extrêmement différentes et auxquelles nous sommes habitués à avoir affaire. Alors, par exemple, sur les traits qui sont partagés, disons qu'on peut faire beaucoup de distinctions, mais il y a les traits qui sont superficiels et puis les traits qui sont profonds. Il y a les traits qui sont momentanés et puis ceux qui sont durables, les propriétés momentanées et durables. Et puis, je dirais, il y a le caractère, ce qui compte aussi, c'est le caractère cohérent ou le caractère disparate des caractéristiques qui unissent les membres d'une communauté. Alors, tout de suite, là, je vous donne des exemples, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de donner des exemples. Sur le caractère superficiel, par exemple, je ne dis pas que ça ne correspondra pas à des choses plus profondes dans la psychologie des individus, mais sur le caractère superficiel des caractéristiques partagées, je pense qu'un groupe de supporters, d'une équipe de football, partage, disons, des traits relativement superficiels, le culte du PSG, un certain culte du PSG, le culte de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique lyonnais. Je pense que c'est quelque chose qui peut engendrer une communauté assez stable, mais quand même sur une base, sur des traits qui sont assez superficiels. Je la distinguerai, par exemple, je l'opposerai à la communauté qui est, bon maintenant c'est moins le cas, mais c'est quand même toujours le cas, à la communauté qui naissent, des caractéristiques d'un engagement syndical, des militants syndicaux, l'adhésion à un groupe syndical, l'engagement dans une vie syndicaliste, c'est ce que j'appelle des caractéristiques profondes qui risquent de marquer une vie, qui demandent une certaine stabilité et un corpus de traits partagés important. Je donne un autre exemple, parce que c'est aujourd'hui non pas à la mode, mais c'est avec le développement technologique, c'est assez courant. Pensez à ces communautés ultra momentanées qui se créent lorsqu'il y a des flash mobs, des gens qui sur un portable ou sur Internet se donne rendez-vous pour, au même moment, dans un lieu donné, pour faire une action. Hein, par exemple, tous s'étendre par terre et puis s'en endormir, par exemple, ou tous se mettre à jouer d'un instrument de musique. Les groupes de flash mobs sont assez typiques, si vous voulez, de ce que j'appelle les communautés basées sur des caractéristiques extrêmement momentanées, par opposition à des caractéristiques plus durable. Et puis, je dirais, un élément aussi, c'est la cohérence ou le caractère disparate des traits qui sont partagés dans la communauté. Je prends un exemple, parce que c'est quand même assez courant, notamment sur Internet. Vous pouvez signer une communauté de pétitionnaires, par exemple, va partager quoi ? Une communauté d'un groupe sur Facebook va partager quoi ? Le fait d'être tous contre la loi. Ou tous pour, je ne sais quoi, l'ouverture d'un chemin de campagne. C'est un des traits qui ne demande pas, par ailleurs, une grande cohérence des engagements. On peut adhérer à signer une pétition sans pour autant caractéristique de l'individu. Et je dirais que de ce côté-là, un des, à travers toutes ces caractéristiques, superficielles, profondes, momentanées, durables, pour disparates, on voit très bien que se distingueront des communautés qui sont légères, temporaires et je dirais, fragiles, et puis d'autres qui sont lourdes. Il y a actuellement il y a une tendance souvent à parler de concepts qui sont fins et de concepts qui sont épais, pour dire qu'il y a vraiment une certaine densité à certaines notions. Eh bien, je dirais qu'il y a des communautés qui sont fines et des communautés qui sont épaisses. Appartenir à une religion implique le partage d'un certain nombre de caractères qui sont appartenant vraiment à une religion, implique le partage d'un certain nombre de caractères assez cohérents et assez lourds, assez profondément inscrits dans la personne. Et en revanche, appartenir à un club de supporters, encore une fois, n'implique pas du tout, même c'est quelqu'un n'a pas donné naissance à une communauté qui est beaucoup plus fine. Donc voilà déjà, si vous voulez, pour cette première dimension des communautés, premier facteur de différenciation, la nature des traits partagés. Deuxième facteur, et là il faut qu'on y soit très attentif parce que les changements technologiques pèsent très lourd, c'est, je dirais, la différence que concerne entre les communautés en fonction de leur réalité, je dirais leur réalité géographique et temporelle, ou de leur réalité virtuelle, de leur virtualité, ou de leur caractère mental. Vous, quand vous êtes de la même cité, quand vous êtes de la même région, éventuellement même d'ailleurs du même pays, parce que ça veut dire quelque chose du point de vue des comportements du même pays, c'est-à-dire vous avez des droits de circulation, vous avez des droits économiques qui sont différents que dans le pays d'à côté, eh bien, vous avez une réalité communautaire qui est tout à fait différente de la réalité d'une communauté en pensée ou d'une communauté virtuelle. Donc, pour ceux qui ont l'expérience de Facebook, quand vous vous retrouvez parmi les amis d'une personne donnée, vous êtes membre d'une communauté virtuelle, et si ça se trouve, je veux dire, il n'y a rien de plus que le fait d'être dans ce groupement-là. Je dirais que si on voulait avoir une illustration bien concrète de ça, donc communauté réelle, communauté virtuelle ou mentale, bien on pourrait opposer mon église, ma communauté, mon église, celle de ma paroisse en quelque sorte, à l'église en général, puisque l'église c'est la communion des fidèles, c'est une communauté virtuelle, une communauté de pensée. Vous pouvez, le club de réflexion politique auquel j'appartiens, ça peut être une communauté tout à fait réelle, et en revanche, je dirais la communauté politique idéale dans laquelle je me reconnais, que je sois libéral, que je sois socialiste, ou que je sois anarchiste, là, c'est une autre sorte de communauté, c'est une communauté virtuelle, qui implique y compris des gens qui sont morts, des gens qu'on ne connaîtra jamais, des gens qu'on ne rencontrera jamais, etc. Alors, ce qui est intéressant avec ce second facteur, l'organisation des communautés, c'est qu'aujourd'hui, à la différence d'un passé qui n'est pas si lointain, nous assistons à une déréalisation, je dirais pas forcément une virtualisation, mais à une déréalisation des communautés, jusqu'aux années 1960-1970, je dis bien jusqu'aux années 1970, je ne parle pas du 19e siècle, on avait affaire à des communautés plutôt lourdes et localisées. Le nombre de Français qui n'avaient jamais quitté leur ville ou quitté leur village, sauf pour aller faire leur service militaire et peut-être une fois à une exposition universelle ou une grande exposition, était considérable. Aujourd'hui, on a affaire à des communautés beaucoup plus idéales ou en tout cas beaucoup plus mobiles et changeantes. Et un phénomène d'ailleurs tout à fait intéressant là-dedans, qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, parce que je crois que son poids est régulièrement sous-estimé, ce serait le phénomène du tourisme. C'est-à-dire à partir du moment où les gens prennent l'habitude effectivement de se déplacer, ils fluidifient leur relation. Or, le tourisme est la première industrie du monde, et quelle que soit la crise, c'est un dixième de l'humanité. En Chine, souvent ce sont les mêmes, mais pas toujours, un dixième de l'humanité se déplace considérablement chaque année pour des raisons de tourisme. facteurs de population, ni de nature réelle ou nature virtuelle. Personnellement, j'ai fait pendant très longtemps de l'histoire de la philosophie. J'appartenais à une communauté, et j'appartiens toujours à une communauté de philosophes du XVIIIe siècle. Je me sens souvent, de toute manière, ils ne peuvent rien dire, donc forcément, ils acceptent ma compagnie, mais je me sens souvent beaucoup plus proche des gens que j'ai étudiés au XVIIIe siècle, de Hume, d'Adam Smith, de Ferguson, que je me sens proche d'un certain nombre de mes contemporains. Et pourtant, là, je suis dans une communauté qui est une communauté purement idéale, purement cognitive, purement mentale, et même pas une communauté virtuelle au sens de l'électronique. Et puis, troisième conditionnement de la notion de communauté, je dirais, c'est la nature contraignante ou non de la communauté. C'est-à-dire, est-ce qu'on y adhère volontairement, ou est-ce qu'il y a un contrôle à l'entrée? Et est-ce qu'on sort volontairement, ou est-ce qu'il y a un contrôle à la sortie? Je crois que ça, c'est quelque chose de très important quand vous voulez réfléchir à la notion de communauté. Pensez à la différence, peut-être pas, parce qu'on n'a plus trop cette expérience-là depuis la chute du mur de Berlin, mais pensez à la différence entre déménager et émigrer. Déménager, si vous avez les moyens financiers, vous pouvez déménager. Émigrer pour je disais la biographie récemment de Gromov, le mathématicien russo-français qui vient d'avoir une grande distinction internationale, quand il a voulu quitter l'Union soviétique, pendant quelques années, il s'est caché en ne faisant plus de mathématiques. On ne sait pas ce qu'il a fait parce qu'on n'aurait pas laissé émigrer comme mathématicien, on l'a laissé émigrer comme une personne ordinaire, en quelque sorte. Oui, c'est évident, déménager et puis. Et quitter, il y a des communautés qu'on ne quitte pas facilement. Alors bien sûr, pensez aussi les groupes dont on peut démissionner, et puis ceux dont vous ne pouvez pas partir, ou bien vous serez considéré comme hérétique, ou bien vous serez expulsé comme hérétique, ou bien vous serez considéré comme traître, etc. etc. Hein? Regardez le cas de M. Besson. Aujourd'hui, Éric Besson est membre du Parti Socialiste, il est parti, il est traité régulièrement de traître. On n'a pas le droit, on a le droit de quitter le Parti Socialiste, mais on n'a pas le droit de quitter ce Parti Socialiste pour aller dans le parti d'en face, sinon à ce moment-là on est un traître. Donc c'est ce caractère contraignant ou non de l'adhésion à la communauté, et contraignant ou non de la sortie de la communauté. Alors quelquefois, la communauté peut être d'ordre juridique, elle peut être inscrite juridiquement, vous avez passé un contrat et pour sortir de la communauté il faut résilier le contrat en quelque sorte. Mais quelquefois la contrainte est morale, est mentale. Moi j'ai connu, bon, pourquoi ne pas dire son nom, parce que c'était un ami très cher, c'était une personne publique, l'auteur, philosophe, essayiste Jean-Claude Michéa, vous avez sûrement entendu parler, Jean-Claude Michéa, qui était au lycée de Montpellier, était le fils de Abel Michéa, rédacteur sportif à l'Humanité. Donc il était né dans une famille de communistes absolument purs et durs. Et pendant des années, dans toutes les années 70, quand j'ai fréquenté régulièrement Jean-Claude Michéa, il n'a pas osé dire à ses parents qu'il avait quitté le Parti communiste. Vous voyez, il avait la pression morale. Il ne le disait pas. Il ne pouvait pas le dire à ses parents. Parce qu'il était très attaché à ses parents, ça leur aurait fait trop de mal. Donc c'était ce qu'on appelle les contraintes mentales. Et vous avez des contraintes, tout simplement, si vous quittez la communauté, mais on vous flingue. Si vous quittez la mafia, vous essayez de vous faire flinguer. Et puis quelquefois la communauté est inscrite sur vous. Je montre souvent, quand je fais des conférences sur l'identité, des photos des gangs maras, vous savez, du Salvador ou du Costa Rica, et puis ceux des États-Unis, les fameuses gangs maras qui s'affrontent. Les tatouages sont tellement omniprésents sur le corps et surtout sur la tête des gens qu'ils ne peuvent pas quitter la mara. Et que c'est un effet des choses que j'ai appris l'automne dernier en Amérique du Sud, c'est que les organisations humanitaires qui veulent venir en aide à ceux qui voudraient sortir des maras sont obligées de financer, mais c'est encore trop récent, obligées de financer des programmes de détatouage qui sont extrêmement longs, extrêmement coûteux, extrêmement douloureux aussi, parce qu'une fois qu'on est marqué mara partout, je veux dire, on ne peut pas se sortir. Alors, voilà cette présentation, si vous voulez, de la notion de communauté, avec, donc, vous voyez, les envergures variables et, je dirais, le poids et la force variables. Alors maintenant, bien, j'ai je vais aller très vite sur le communautarisme, parce que je vous ai donné tous les éléments. L'individu, tout individu, fait forcément partie de communauté, par la force des choses. Communauté biologique, hein, il a les gènes de son groupe parental, de sa filiation, de son groupe ethnique. Il fait partie de la communauté, à des titres culturels, à des titres politiques. Il n'y a pas de voyageurs sans bagages, c'est pas vrai. Hein. On a toujours des communautés, des appartenances qui vous traînent, qu'on traîne derrière soi. Et évidemment, le problème qui se pose, à la fois théoriquement et concrètement, c'est quelle est la relation entre la communauté politique démocratique, qui est censée être constituée d'individus raisonnables, autonomes, volontaires, clairvoyants et détachés des autres, et puis les appartenances communautaires. C'est ça le problème du communautarisme. Vous avez une définition de la démocratie à laquelle nous tenons, c'est que nous avons affaire à un individu qui est détaché des autres, qui est autonome, qui est volontaire, qui a sa volonté, qui a son autonomie de pensée, et eh bien, cet individu, il est aussi par ailleurs une femme, un noir, il vient d'une minorité, un handicapé, et puis il a des croyances, etc. Il a toutes ces appartenances communautaires qui traînent derrière lui et qui traînent avec lui. Et d'ailleurs, vous avez un très beau symbole en fait, de ce problème, deux situations symboliques intéressantes de cette sorte d'antinomie, c'est l'isoloir. Pensez que pour aller voter démocratiquement, vous entrez dans l'isoloir. On vous force d'entrer dans l'isoloir. Vous ne pouvez pas, même si vous savez très bien ce que vous allez voter, vous devez entrer dans l'isoloir. C'est assez symbolique que pour exprimer sa volonté démocratique, il faille être seul face à face en son fort intérieur et sa conscience. Et ça s'oppose bien évidemment à toute forme de volonté collective, de vote à main levée, etc. Alors, comment est-ce que l'individu peut faire abstraction de ses appartenances? Comment il peut faire, et de quelle appartenance doit-il faire abstraction? Et peut-il même faire abstraction de ses appartenances? Alors, communautarisme, maintenant, la définition elle est extrêmement simple, parce que c'est un mot très curieux, le mot est arrivé dans le vocabulaire politique. Je ne résisterai pas à dire les méchancetés contre lui, là, via Jacques Chirac, qui n'était pas la meilleure manière d'introduire un concept dans l'espace politique français. Et on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Communautarisme, c'est très très simple comme définition. C'est l'idée qu'un individu, pour exister pleinement, y compris politiquement, doit voir reconnu non seulement ses droits civiques, mais aussi certains de ses droits communautaires. C'est-à-dire qu'il ne peut pas justement être absolument tout nu, que l'individu, compte tenu de sa nature d'individu, il doit, aussi voir reconnu un certain nombre de ses droits liés à ses appartenances communautaires. Alors, il y a deux variantes du communautarisme, une qu'on appelle philosophique, qui consiste à dire que, au fond, l'existence humaine ne peut pas être régie par la théorie individualiste, mais que justement, il faut toujours tenir compte de la substance, de l'éthos, de l'éthique, en quelque sorte, de la culture des individus, c'est-à-dire de leur conception de ce que c'est que la vie bonne, plutôt que de leur conception de ce que c'est que l'autonomie de la justice. Mais la version politique normale, comme celle qui est très courante au Canada, très courante aux États-Unis, c'est l'idée qu'on doit aménager l'existence démocratique de manière à prendre en compte un certain nombre des droits communautaires. Alors le problème, à partir de là, devient à la fois très simple à formuler et totalement amphigorique à résoudre, c'est quelles appartenances et quels droits communautaires doit-on prendre en compte? Est-ce qu'on doit prendre en compte le fait que les gens sont indiens et qu'ils ont certaines traditions indiennes? Ça, c'est la tradition des First People aux États-Unis. Est-ce qu'il faut prendre en compte le fait que les gens sont basques? Et si être basque, ça se prend en compte à travers quelles caractéristiques? Est-ce qu'il faut prendre en compte les appartenances religieuses, témoins de Jéhovah, musulmans, chiites, sunnites, etc., chrétiens intégristes, protestants, protestants du christianisme, du revival, etc., etc. Donc chaque fois, la question bien précise va être, et je vais m'en tenir là, va être: quelles caractéristiques communautaires peut-on accepter dans le système de fonctionnement démocratique? pratique, quelles sont les caractéristiques communautaires qu'on peut tolérer, quelles sont les caractéristiques communautaires qu'on ne peut pas et qu'on ne peut en aucun cas accepter. Et je dirais que c'est chaque fois quelque chose à étudier très précisément, mais de manière très concrète. Hein, parce que témoins de Jéhovah et refus des interventions médicales et des transfusions sanguines. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut accepter le comportement des parents témoins de Jéhovah par rapport à l'état du droit des personnes et notamment du droit des enfants, le respect des droits des enfants. Problème, apprentissage des langues. Problème, les coutumes. Fameuse question autour de l'excision. Est-ce que quelqu'un qui est citoyen français peut prétendre importer avec lui, des pratiques culturelles d'excision des filles. Voilà. Donc chaque fois que vous avez cette question, j'ai terminé, chaque fois que vous avez cette question qui se pose, et je crois qu'en fait il faut, elle implique qu'on divise le problème. Moi je suis un partisan, je ne suis pas un métaphysicien qui a des réponses à tout, il faut diviser le problème, et en deux parties. Le premier c'est quelles sont les caractéristiques juridiques que nous considérons comme indispensables à la démocratie. Ça, c'est bien. Quelles sont les caractéristiques juridiques sur lesquelles nous ne transigerons en aucun cas? Et d'autre part, c'est l'autre partie, l'autre phase de la pièce, c'est quelles caractéristiques communautaires pourront être tolérées, reconnues, proscrites, condamnées. Vous voyez, je crois que quand on s'interroge sérieusement sur les deux branches de la question, on peut arriver à travers des conflits, à travers des discussions, à travers des antagonismes, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, on peut arriver à des décisions. Il se peut aussi qu'on arrive, tous deux, et ce sera mon dernier mot, il se peut qu'on arrive aussi à constater qu'il y a des antinomies absolument irréductibles. Merci.
Merci, M. Michaud. Je vais maintenant céder la parole à M. Baudon Valaise sur la connaissance des religions.
Merci à vous toutes et à vous tous de votre présence. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci à l'Université Créteil et à M. Yves Michaud. Alors, je ferai deux parties. Une première sur coexistence pacifique ou conflit dans les religions. Et une deuxième, coexistence pacifique ou conflit dans les religions à l'époque. Et puis une conclusion qui va vous suivre. Première partie, coexistence pacifique ou conflit dans les religions. Aucune religion n'a le monopole de la guerre ni le secret de la paix, mais toutes ne sont pas sur un pied d'égalité. La plus pacifique est le bouddhisme, qui s'est toujours répandu dans le monde par les marchands et jamais par les soldats, qui n'a jamais prêché la guerre sainte. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des bouddhistes violents, comme certains moines sri-lankais contre les tamouls hindouistes, ou comme des moines zen lors de l'impérialisme nippon. L'hindouisme est toujours défensif puisqu'il n'est pas prosélyte, il ne s'est jamais répandu dans le monde par les armes, mais par contre sa défensive peut être violente quand par exemple il se heurte à l'islam dans certaines régions de l'Inde. Le christianisme est pacifiste de naissance, tendez la joue droite si on vous frappe sur les genoux, dit Jésus. Il a connu 3 siècles de martyrs, mais ensuite la victime s'est fait parfois bourreau et le persécuté persécuteur, quand le christianisme a conquis le pouvoir et qu'il a notamment lancé les croisades. Le christianisme peut donc tour à tour être une religion dans le camp des opprimés et dans le camp des oppresseurs. Alors restent 2 religions très particulières, le judaïsme et l'islam, dont la genèse même est indissociable d'événements militaires. Le judaïsme s'est constitué en tant que religion au travers de 5 épreuves violentes. 1. L'exode d'Égypte. 2. La lutte contre les Philistins. 3. L'exil à Babylone. 4. La guerre des Maccabées. et 5, la guerre des Juifs contre les Romains, ou plutôt les Romains contre les Juifs. C'est au cours de ces 5 épreuves politiques et militaires qu'a émergé progressivement une religion, la religion juive, qui a dû défendre son identité par les armes, mais vous savez que la défensive est parfois aussi sanglante que l'offensive. Ensuite, le judaïsme a été constamment victime, après la dispersion des Juifs de Jérusalem, la diaspora, et on peut dire que pendant 1800 ans, le judaïsme a été une victime. Et puis maintenant, le judaïsme se retrouve confronté au phénomène militaire à propos de la coexistence entre juifs et musulmans en Israël-Palestine. J'ajouterai que ce problème, le problème palestinien, est probablement de tous les problèmes à connexion religieuse le plus grave de la planète, qu'il a des conséquences en France, y compris dans nos écoles. J'espère que Hillary Clinton réussira là où son mari a échoué en 2000, mais tant qu'il n'y aura pas un règlement pacifique et politique des problèmes palestiniens, je ne crois pas beaucoup à un affaiblissement des tensions religieuses dans le monde. C'est ça le problème numéro un. L'islam s'est constitué au travers de plusieurs événements militaires qui ont opposé le prophète au polythéisme de la Mecque. Un, la victoire de Bâr du prophète. Deux, la défaite d'Uhud. Trois, la victoire de la bataille du Fossé. Et à ce moment-là, le prophète avait fait à la fois l'unité de l'État arabe, puisqu'il est rentré sans donner un coup d'épée à la Mecque. Aussi l'unité de la foi, le Dieu unique. Ensuite, l'islam s'est constitué à travers l'épreuve militaire de sa séparation avec le chiisme, des grandes batailles comme la bataille du chameau qui a opposé Ali, le gendre du prophète, au calife de Damas, et puis les assassinats d'Ali, Hussein, à Najaf, à Karbala, et donc cette séparation sanglante des deux branches de l'islam. Ensuite, l'islam a pu être parfaitement pacifique et ne pas être confronté à ces épreuves militaires choisies ou subies. L'islam s'est propagé par les soldats, mais il s'est aussi propagé par les marchands en Indonésie, en Malaisie, Afrique subsaharienne, via le Sahara et les caravanes de chameaux, mais la genèse même, la constitution de l'islam a été marquée par des épreuves militaires, qu'on a appelées djihad, efforts intérieurs ou extérieurs, exactement comme les arts martiaux peuvent être internes ou externes. Voilà pour l'islam. Alors, dans ce contexte-là, j'en arrive à ma seconde partie. Coexistence pacifique ou conflit à l'école à propos des religions. D'abord, n'oublions pas ce que les religions doivent à l'école et ce que l'école doit aux religions. Les premières écoles du monde ont été rabbiniques, puis coraniques. En Europe, la première école dont on a une trace certaine est la maîtrise de la primatiale Saint-Jean à Lyon, fondée par Charlemagne en 799. La première école primaire, gratuite et obligatoire, mais pas laïque, est l'école de Genève, fondée en 1536 par Jean Calvin, trois siècles avant Jules-Ferry. Ça, c'est un beau palmarès. Mais par la suite, il est incontestable que le phénomène religieux a créé, a causé, des problèmes à l'école. Ces problèmes sont principalement de deux ordres, alimentaires et vestimentaires. Il est rigoureusement impossible de respecter intégralement chaque religion que ce soit à l'école ou dans la société. Prenons le vêtement, le voile, la kippa, la grande croix et le turban des sikhs. Voilà un problème qu'il est très difficile de résoudre. Problème alimentaire, kasher, halal. Je rappelle que ce qui est halal est kasher, mais ce qui est kasher. Non, ce qui est kasher est halal, mais ce qui est halal n'est pas forcément kasher. C'est impossible. À la limite, un juif orthodoxe doit avoir ses propres couverts pour manger à la cantine. C'est rigoureusement pareil pour l'hindouisme. Vous savez qu'il n'y a pas eu de restaurant pendant des siècles en Inde, parce qu'il faut que la vaisselle soit faite par des mains pures et la cuisine aussi. Donc, par la suite, les bons restaurants ont été ouverts par les brahmanes. Et c'est impossible pour un hindouiste fondamentaliste de manger autrement que dans sa caste. Vous savez, quand Gandhi est venu à Londres étudier le droit, on l'a critiqué. Et pourtant, il n'était pas brahmane, il était commerçant. Vajra, on lui a dit, mais tu vas manger avec des impurs. Ta vaisselle sera faite par des impurs. Ta cuisine sera faite par des impurs. Donc on ne peut pas respecter intégralement les règles d'une religion, que ce soit sur le plan alimentaire ou sur le plan vestimentaire. Ou alors, il faut faire des concessions. Rappelez-vous, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, c'était pareil pour le poisson de vendredi. À l'école publique, il avait fallu des textes, des circulaires, pour obliger les cantines de l'école publique à servir le poisson de vendredi. Conclusion, le religieux à l'école est forcément une source de conflit dès lors que chaque religion revendique l'intégralité de ses principes. Mais, si chaque religion accepte des concessions, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors, certaines religions vont très loin. Je rappelle que à Paris, il y a une école alsacienne fondée par des protestants qui étaient exilés d'Alsace. Et vous ne devinerez jamais par qui cette école alsacienne protestante a été inaugurée. Par Paul Bert, le pape de l'anticléricalisme, qui disait que le clergé, c'était le phylloxéra de la France. Donc il peut y avoir des religions très tolérantes, très laïques. Et historiquement, le protestantisme français était allié de la République laïque. C'est même les protestants qui ont fait triompher en bonne partie de la République laïque avec un chrétien de gauche, Henri Valois. Ça ne faut jamais l'oublier. S'il y a une Troisième République, c'est grâce à un catholique de gauche, Henri Vallon, qui a fait voter son amendement à une loi de majorité qui a imposé le président de la République. C'est un catholique de gauche, Vallon, qui avait fait une énorme thèse sur l'esclavage dans l'Antiquité. Puis c'est grâce aux protestants, puisque dans le gouvernement Wellington de 1878, sur 11 ministres, il y avait 5 protestants. Mais n'empêche qu'il peut aussi y avoir des protestants évangéliques extrêmement intolérants. Donc il est très très difficile de dire qu'une religion en elle-même va introduire le trouble à l'école ou qu'au contraire elle va semer la paix. Il peut y avoir des semeurs de paix, catholiques, protestants, musulmans, juifs, hindouistes, bouddhistes et des fauteurs de désordre des mêmes religions. Tout dépend le degré de dialogue que chacun est supposé accepter. Voilà ce que j'en pense, mais je vais terminer par une conclusion un peu approfondie. Ma remarque va être la suivante. Si on avait fait ce colloque il y a 7 ans, l'amphi serait plein. Il aurait été plein. Alors, on dit, oui, c'est une question d'horaire, c'est possible. Hein? Si vous regardez attentivement, et je suis ça d'assez près, les courbes d'audimat des émissions religieuses, la place consacrée à la religion dans les quotidiens, le tirage des revues type, des revues qui concernent la religion, le maximum d'intérêt c'était 2002, c'était l'époque où Régis Debray parlait du fait religieux. Là il y a eu un énorme intérêt sur le religieux, et notamment le religieux à l'école. Depuis cet intérêt a beaucoup faibli. Pourquoi ? pour plusieurs raisons. D'abord, cet intérêt a culminé après les attentats du 11 septembre. On a voulu un peu savoir pourquoi tant de violence au monde des religions, mais depuis, on est un peu, je dirais, fatigué de toutes ces violences religieuses. Ensuite, à l'époque, on avait un pape assez médiatique, Jean-Paul II. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pape actuel ne suscite pas un enthousiasme délirant des fous. Et enfin, je pense que le balancier de l'histoire, une fois de plus, va très loin dans un sens comme dans l'autre. Il y avait une espèce de mode du religieux. Par exemple, la FNAC a organisé des colloques sur les grandes fêtes religieuses avec dégustation de pâtisseries arabes, de repas juifs pour les grandes fêtes religieuses. Ça, c'est 2002-2003. Ça serait totalement impossible aujourd'hui. Probablement aussi, il y a eu un réveil maçonnique très important. Ceci est capital en France. Je parle de la maçonnerie française. J'ai souvent fait des tenues blanches dans mes loges. Vous savez que l'histoire de l'école laïque est absolument indissociable de la maçonnerie. Sans la maçonnerie, il n'y aurait pas eu l'école laïque en France, on dirait à peu près comme ça. C'est la fraternelle parlementaire qui a voté toutes les lois qui ont fait l'école publique en France depuis 1880. Cette maçonnerie s'était affaiblie. Or, aujourd'hui, elle retrouve un rôle plus important qu'autrefois. La remontée de la maçonnerie, toutes les loges profondes du spiritualiste ou non, est probablement l'événement philosophique le plus important de ces 20 dernières années. En gros, bien qu'il n'y ait pas de statistiques officielles, je dirais que la maçonnerie a triplé ses effectifs en 30 ans. Ça joue un rôle énorme. Et puis, je terminerai par là, last but not least. Lisez l'Express cette semaine et le palmarès des lycées. Alors je sais bien qu'on les a critiqués, ces palmarès. Mais ils sont de mieux en mieux faits, et celui de cette année va vous surprendre parce qu'on a un peu modifié les critères pour prendre encore davantage en compte la capacité des établissements à faire progresser les élèves et le caractère sélectif ou accompagnateur d'un lycée, c'est-à-dire ceux qui virent les élèves pas bons et ceux qui les gardent. Je pense qu'on arrive à des critères quand même assez justes et qui correspondent à mon expérience, puisque chaque année, je suis président d'un jury de baccalauréat dans l'Académie de Paris, où j'ai des élèves de tous les lycées, et il y en a beaucoup à Paris, vous savez, publics, privés sous contrat, privés hors contrat. Je vous signale que dans l'Académie de Paris, sur les 20 premiers lycées, en résultat brut du bac, 19 sont privés catholiques. 19 sur 20. Et oui, c'est ça la réalité. Et même en tenant compte des critères, ce qui vire, ce qui ne vire pas, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'académies où pour avoir un lycée d'un niveau à peu près correct, vous avez le choix entre la Sainte-Famille et la Providence, entre Sainte-Marie et Notre-Dame. Disons-le franchement. Alors, moi qui suis un défenseur invétéré de l'école publique laïque, je m'en désole. Mais je ne peux pas dire non plus que ce soit injustifié totalement, et je ne peux pas dire non plus que les élèves, que les établissements privés cathos soient en tête des palmarès parce qu'il y a des élèves. Parce qu'il y en a, c'est pas vrai. Ils sont en tête des palmarès alors qu'ils virent pas. Donc l'école publique est affaiblie. Quelle raison? Peut-être que la loi Debré, complétée par la loi Gerber, a été complétée par je ne sais combien d'arrêts du Conseil d'État, est trop favorable à l'école privée. C'est possible, hein? C'est possible ça. Mais l'école publique est extrêmement affaiblie. Terriblement affaiblie. Alors, on dit qu'il y a des problèmes religieux à l'école publique. Oui, bien sûr. Mais si l'école publique était plus forte, plus rayonnante, plus attirante, plus sûre d'elle-même, il n'y aurait pas ces problèmes. Alors aujourd'hui, vous voyez les élèves musulmans, les petits beurs et les beurettes qui vont à l'école catholique. C'est quand même curieux, ça. Il y a un problème d'affaiblissement de l'école publique, que je regrette, que je constate. Je n'ai pas la solution à ce problème. Mais je crois que si l'école publique, encore une fois, était plus sûre d'elle-même, plus attirante, plus rayonnante. Il y aurait moins de problèmes de religion à l'intérieur de l'école. Ah, je vais terminer par une petite anecdote. J'ai fait une émission il y a quelques années avec Jean Lebrun de France Culture. Jean Lebrun est un ancien prof de lettres d'un lycée de Montreuil que je ne citerai pas. Il m'a dit, voilà, quand j'étais prof, nous avions le même taux de réussite que Louis Grand, moins 10 points au bac. Or, aujourd'hui, ce lycée a le taux de réussite de Louis Grand, moins 30 points. Et on faisait toute une émission dans un collège d'Aubervilliers, les classes de 6e, un magnifique collège qui a coûté des fortunes à construire, qui est en bois des îles précieux. Je signale que c'est d'ailleurs indéniable parce qu'il y a des conventions qui protègent ces bois précieux, enfin peu importe, de magnifiques bâtiments. Et ce collège, que je ne citerai pas, est un de ceux qui a les plus bas résultats au BEPC. Alors vous allez me dire, c'est le niveau social, c'est l'origine géographique, ethnique, etc. Je veux bien. Il se trouve que dans la même ville, il y a un collège privé, Catou, dont 60% des élèves sont musulmans, et qui a des résultats bien meilleurs. Je ne jetterai sûrement pas la pierre au collège public. Et je dis que tous ces problèmes qui se posent à l'égard de religion ou d'autres trouveraient une solution plus facile si le service public laïque de l'enseignement fonctionnait mieux. Je vous remercie.
J'aurais peut-être l'occasion de revenir sur mon propos tout à l'heure. Je suis inspecteur d'histoire-géographie, donc je suis, il m'arrive très souvent d'assister à des leçons autour de l'enseignement du fait religieux. Donc avant de céder la parole à notre intervenant, je vais le présenter. Donc Moussa Kadimela, qui est doctorant au Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Il est spécialiste des questions d'intégration urbaine. Il a enseigné à l'Université de Marne-la-Vallée, à l'Université de Utaneus, qui est en Seine-Saint-Denis, chez nous, dans laquelle il est créateur. Il a publié différents articles sur les zones urbaines sensibles, les US, sur l'immigration en France, sur les questions de l'islam. Et je crois qu'actuellement, il travaille dans une grande entreprise, on dira peut-être deux mots. Alors, nous sommes partis donc d'une définition tout à l'heure de communauté communautarisme. Monsieur Dombalet a introduit effectivement la dimension religieuse à l'école et exposé son point de vue sur les difficultés peut-être d'enseigner cet enseignement du fait religieux. Donc là, nous allons changer d'échelle. Monsieur Moussa Kadima va nous parler de la coexistence des religions, source de conflit ou coexistence pacifique pour la population. Je vous cède la parole.
Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci à l'ITLS et je vous remercie. Si vous voulez, j'ai une présentation PowerPoint, si vous voulez un support visuel, je vous remercie. Donc, je remercie les organisateurs pour m'avoir invité. Je vais m'excuser de ce petit retard de transport. Effectivement, si je devais me présenter académiquement, je dirais que je suis universitaire qui travaille sur l'islam contemporain, notamment le rapport entre les nouveaux mouvements religieux, et puis, je vais peut-être me mettre sur le côté.
Si on a un problème, je sais qu'il y a l'informaticien dans la salle. Je ne dirai pas où il est.
Bon, je vais vous faire un stage. Entre, donc, si je devais me présenter académiquement, je dirais que je m'intéresse effectivement à l'islam contemporain et au rapport avec les nouveaux mouvements, le rapport qu'il y a entre les nouveaux mouvements religieux et les espaces publics nationaux. Donc comment dans l'espace public on revendique son identité, comment on se présente en tant que juif, chrétien ou musulman. Et effectivement, on voit que depuis 15-20 ans, il y a de plus en plus dans l'espace public la revendication d'identité privée. C'est vrai pour les religions, c'est vrai aussi pour d'autres types d'identité, qu'elles soient sexuelles, régionalistes, homosexuelles, etc.
Alors, on parle beaucoup des agressions, effectivement,
homophobes antisémites, il y a quasiment autant d'agressions qu'on pourrait appeler anti-arabes ou islamophobes. Donc dans l'étude qu'on a fait avec Yorka, alors je parlerai de la région du Nord puisque j'ai pu travailler là, donc les autorités à qui on s'est adressé pour leur demander le nombre de plaintes, que l'on soit juif ou chrétien, qu'elles émanent d'écoles, d'institutions ou de privés, donc il y avait quasiment très peu de plaintes qui venaient de mosquées détériorées, de propos judéophobes ou arabophobes. Et en fait, malgré que les autorités encouragent à ce que les gens portent plainte, donc il y en avait très peu qui portaient plainte, et au contraire, tous les actes antisémites, généralement, étaient très très vite relayés par les médias, par les organisations, les associations, qui ne sont pas toujours présentes de l'autre côté. Alors, il y a notamment dans ces deux affaires, je vous ai parlé de l'affaire du RERD, on aurait pu parler également de l'affaire de l'agression qui date de juin dernier d'un jeune français d'origine maghrébine qui a été agressé par des skinheads et qui ont proféré aussi des propos islamophobes. Donc, effectivement, on sort notamment d'une période médiatique, effectivement, avec la surdétermination du conflit à Gaza et en Palestine. Et c'est remarquable de voir que dans notre pays, on a souvent donc négligé dans les analyses la dimension religieuse. Et cette dimension a tendance à revenir en force, et notamment dans les écoles. Alors, quelques informations à vous donner avant de plonger peut-être dans la présentation des deux enquêtes auxquelles j'ai participé. Vous dire d'abord que on a en France les deux plus importantes communautés juives et musulmanes d'Europe. Il y a à peu près 5 à 6 millions de musulmans aujourd'hui, le nombre est difficile à estimer, mais autour de 7% de la population. C'est la plus grosse communauté musulmane en Europe. Et on a également la plus grosse communauté juive en Europe. Et notamment, on a beaucoup de juifs qui sont des juifs pieds noirs, donc des juifs séfarades. En France. Autre information, donc la France est souvent vue par les pays européens, notamment pour l'Occident, et j'ai eu l'occasion de mesurer aux États-Unis, un petit peu comme le baromètre des bonnes relations entre juifs et chrétiens. Si tout se passe bien en France, tout se passe bien dans le reste du monde. Et si tout se passe mal en France, c'est qu'il faut craindre le pire. Et donc, beaucoup d'organisations nationales et internationales donc surinvestissent un petit peu la France comme étant une sorte de terreau, de terrain, de champ d'expérimentation où il faut absolument faire en sorte que les relations entre juifs et chrétiens se passent au mieux, parce que si elles dégénèrent, il va se passer exactement la même chose d'ailleurs. Alors, on se base sur des indicateurs pas très fiables, du genre, en 2006, il y a eu des émeutes en France, elles se sont répandues en Belgique, elles se sont répandues en Hollande. Si demain il y a une vague d'antisémitisme, notamment en France, on imagine également que se répandre dans les autres pays européens. Alors, on néglige effectivement la question des religions en France, et pour ma part, j'ai pu le voir aux États-Unis, c'est un vrai vecteur de dialogue, de paix civile, et notamment un vecteur de médiation sociale qui peut être investi. Alors, il y a en cela, du fait qu'il y a ces deux grandes communautés très importantes en Europe, il y a une responsabilité des leaders de ces deux religions, notamment en France, et je parlais de l'implication des parties prenantes en dernier point, parce qu'il me semble impossible de traiter le sujet si on ne prend pas en considération l'ensemble de la chaîne des gens impliqués dans ce phénomène pour pouvoir travailler. L'école ne fera rien s'il n'y a pas les associations qui sont impliquées, l'école ne fera rien s'il n'y a pas les politiques qui sont derrière, s'il n'y a pas les parents qui sont derrière, s'il y a l'ensemble des gens qui, de près ou de loin, y sont investis. Alors, vous dire peut-être très vite, entre peuple juif et musulman, donc Odo Valley a commencé de le dire, effectivement il y a quasiment, un grand nombre de facteurs qui rassemblent ces deux communautés. Alors des facteurs de culture et d'histoire, on peut parler d'Harun al-Rachid, j'aime bien en parler parce que ses ambassadeurs, on comptait de nombreux ambassadeurs juifs, notamment ce fameux éléphant dont j'avais déjà parlé. Avait été accompagné par un ambassadeur juif, mais également Saladin, dont le fameux Maïmonide a été le médecin. Maïmonide qui a soigné Charter de Lyon, si je ne me trompe pas. Donc la figure de Maïmonide, qui a été philosophe et médecin très célèbre, donc au 12e, 13e, donc a été lui-même très proche de l'univers religieux. Donc voilà, il y a toute une densité de l'histoire, je ne parle pas de la reconquista, enfin, notamment des pogroms qui ont fait chasser un certain nombre de juifs vers les terres musulmanes, ou du fait qu'elles ont été protégées, elles ont dû payer un impôt, qu'on appelle l'impôt du ennemi. Donc cet impôt leur garantissait d'être protégées. Les présences dans les terres musulmanes de populations juives ont duré très longtemps, jusqu'à le début des indépendances. Et donc, j'en parlerai un petit peu plus tard sur le décret Crémieux, mais on sait que par exemple, Mohamed V a été un des grands protecteurs de la communauté juive et qu'il avait refusé de livrer l'époque de Vichy, donc les juifs à l'Indonésie et au gouvernement Vichy. Plus près ici, d'ailleurs en France, il y a d'ailleurs un documentaire intéressant qui s'appelle L'autre résistance et qui évoque comment des Français d'Algérie à Paris ont protégé évidemment à peu près 1500 enfants qui ont été cachés sur la mosquée de Paris ou qui ont été envoyés au Maroc ou en Tunisie. Alors, un tas de choses qui les rassemblent, des interdits religieux, les circoncisions, on connaît de la question de la viande cachère, et puis un certain nombre de divergences aussi. Parce que durant la colonisation française, il y a eu un vrai choc, semble-t-il. C'est le décret Crémieux qui a donné la citoyenneté aux citoyens, personnes qui vivaient, qui étaient pas citoyens, qui devenaient citoyens français. Le décret Crémieux a donné la nationalité aux personnes de confession juive, et ça n'a pas été le cas pour les Français d'Algérie. Alors, les divergences se sont surtout accentuées, bien évidemment, après la création de l'État d'Israël et tous les premiers conflits qui en ont suivi. Alors, sur les deux enquêtes qui ont été menées, peut-être vous dire un petit mot sur l'école, sur les prémices du dialogue qui sont probablement à l'école. Prémices du dialogue, notamment parce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'école est détonateur, amplificateur ou médiateur de la relation? Alors, faiblesse du pacte laïque. Je vous parlais tout à l'heure des histoires de Foulard en 89, qui ont également donné cette fameuse loi en 2004 sur les signes ostentatoires à l'école, qui ne concerne pas que le Foulard, mais qui concerne effectivement également les turbans cycles et la croix. Donc, ces affaires de Foulard en 89, dans le lycée qui a été concerné, il y avait une aumônerie chrétienne, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, et un certain nombre de spécialistes et d'observateurs considèrent qu'aujourd'hui, on est bien plus, on n'est plus dans le panorama de 1905 qui était un panorama largement catholique. On est aujourd'hui dans un foisonnement avec différentes confessions. Et je vous renvoie notamment aux travaux de Jean Bobéraud. Jean Bobéraud part de l'idée simple que le panorama de 1905 et celui d'un siècle plus tard, en 2005, est très différent et qu'il faut renégocier le pacte laïque. Parce que les demandes effectivement de religieux à l'école sont de plus en plus importantes et les familles musulmanes par exemple, ça les intéresse bien, Noël, ça les intéresse bien d'avoir un congé à Pâques, mais ça les intéresserait surtout d'avoir un congé au moment de leur propre fête. Et donc la demande de religieux se fait de plus en plus pressante à l'école et dans ces affaires de foulard et cette loi qui en a découlé, donc il y a eu une sorte de vrai traumatisme qu'on a pu mesurer, comme je vais en parler l'instant d'après, mais un vrai traumatisme auprès de la communauté musulmane qui voit vraiment cette loi comme une injustice, puisque il n'y a pas de lycée privé, de collège privé, ou alors il y en a une toute petite poignée, il doit y avoir deux lycées et quatre collèges privés aujourd'hui en France, pour à peu près 5 à 6 millions de musulmans. Donc effectivement, ils vont souvent vers des lycées plutôt catholiques, professionnels et d'autres religions. Et donc, du fait de tous ces déficits, de voir qu'en plus, il y a dans cette affaire de foulard où on met à la porte des jeunes filles, où on ne leur autorise pas l'entrée de l'école publique, il y a des enseignements d'autres religions. Alors, traitement de l'histoire des deux communautés en question, parce que ce qui revient également souvent, et on l'a vu dans des entretiens, notamment sur cette enquête sur le antisémitisme, c'était. Donc, notamment une catéchèse moyenne qui disait que dans les livres scolaires, l'image qui était diffusée, c'était absolument pas l'image d'une spiritualité, en 6e, 5e, lorsque l'on traite les religions, mais beaucoup plus l'image d'une idéologie. Et donc de travailler autour de la question des manuels. Alors, autre constat que vous connaissez tous, l'ethnicisation des rapports sociaux. Aujourd'hui, on parle de, très facilement de blagues, de musulmans, de beurre, de bois noir, de pute. Donc, tout ce registre sexiste et ce registre plutôt ethnique dans les écoles. Et les communautarismes sont souvent renvoyés en miroir. Et donc, on se revendique beaucoup aujourd'hui, très très facilement, des communautarismes. La communauté n'étant pas automatiquement, comme le disait tout à l'heure les deux intervenants, mais souvent la communauté étant plutôt vue comme un groupe dans lequel on se constitue. Et non pas un groupe, j'allais dire, négatif qui j'allais dire, devait s'opposer aux autres. Donc les communautarismes en miroir, et là-dessus, qui dit que, effectivement, de plus en plus, dans les zones urbaines sensibles notamment, les jeunes s'identifient de plus en plus à une religion, s'identifient de plus en plus à un facteur très spécifique, et quand cela constitue une communauté, mais il utilise ça dans un article, il oppose le foulard islamique au foulard hermès, en disant que, grosso modo, sur ces deux foulards, ça renvoie à deux communautés, et qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est arrivé, malheureusement, effectivement, à différents. Communautés qui se font face. Alors la question de la carte scolaire, qui est également un facteur très important, je crois, parce qu'il n'a pas absolument pas permis cette mixité. Donc depuis deux ans, il y a un assouplissement de la carte scolaire, avec l'objectif qu'en 2010, il n'y ait plus de carte scolaire. Mais pour le moment, donc, elle est toujours en fonction. Ce cumul des discriminations, qui est souvent la porte ouverte aux radicalisations. Et le terme que vous connaissez peut-être, de Félousie, qui parle d'apartheid scolaire et de ségrégation ethnique, en disant qu'effectivement la classe scolaire, elle a créé ses ghettos, elle a créé ses communautés. Alors, l'islam dans les prisons, les racismes et l'antisémitisme, très rapidement, quel enseignement on peut tirer. Donc, effectivement, ce qui revient dans les deux, et c'est intéressant, je pense, pour le cadre de l'école également. Parce qu'il y avait des écoles concernées dans le racisme et l'antisémitisme. L'islam dans les prisons, ce qui revenait systématiquement lorsqu'on posait la question sur les juifs en France ou sur l'État d'Israël, il y avait tout un discours avec des relents antisémites évidents, en faisant une sorte d'amalgame entre Israël, les citoyens israéliens, les juifs de France et les pouvoirs qui soutiennent Israël. Et on arrivait souvent avec un dérapage ou des raccourcis divers et variés à. Les Américains, de toute façon, ce sont que des Juifs, et on se pose la question, est-ce que Chirac ne l'est pas? Et donc, on arrivait à des choses de ce genre-là, qui étaient encouragées par le fait que dans les prisons, comme dans les écoles, il y a donc, la laïcité qui devait s'appliquer, et les colis qu'on autorise dans les prisons, c'est les colis de Noël. Donc, les colis de Noël arrivent dans les prisons, et souvent, l'administration pénitentiaire autorise les colis pour le Yom Kippour. En 2003 et 2005, il y a 2000 juifs qui ont quitté Sarcelles, soit pour repartir en Israël, soit pour partir dans une autre ville et intégrer une école privée. À Villepinte, c'est encore plus flagrant, puisque à Villepinte, la construction et l'imagerie de la communauté juive, et ça on a pu le voir, et notamment avec les professeurs, donc l'impact notamment des nouvelles chaînes satellitaires arabes qui diffusent des images que vous ne voyez pas ici, notamment dans les derniers bombardements qui ont lieu à Gaza, sur des chaînes arabes du type Al Jazeera, du type Iqra, etc. Donc vous pouviez voir, j'allais dire quasiment en direct live, donc des gens mourant avec leurs hôpitaux, etc., etc. Donc imaginez l'impact émotionnel que ça peut également avoir donc, auprès des... Alors, intéressant pour finir, sorte de facteur de classe, puisqu'effectivement, plus on est dans des classes sociales populaires, et plus il y a cette vision, effectivement, de l'amalgame, où l'on dit souvent, nous sommes les Palestiniens de France. Nous sommes opprimés, c'est injuste, on est dans les ghettos, on est pas dans les bonnes écoles, on n'a pas de boulot, on ne peut pas rentrer dans les discothèques, etc. Donc, toute cette vision un petit peu quasi parano que le système est contre nous. et en même temps de dire qu'ils sont les Palestiniens de France, de dire qu'il y a une communauté qui elle n'a aucun problème et qui a le pouvoir, etc., avec tous les préjugés que vous imaginez, et qui est la communauté juive. Donc, quelquefois justifié par des justifications quelquefois religieuses pour encourager cette vision. Et dès qu'on entend, par contre, dans les classes moyennes, on a en face de nous des professeurs qui enseignent, qu'on a des leaders d'associations, des imams, etc., c'est plutôt de dire, d'avoir un discours du type, il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler une hypermnésie sur la question de la Shoah, on en parle trop, ça nous saoule, et du fait que ça nous saoule, ça nous ramène à notre propre histoire, pourquoi est-ce que notre propre histoire n'est pas enseignée aussi bien que diffusée dans les médias, dans les ouvrages, etc. Cette hypermnésie avec l'argumentation double, donc soit on veut nous faire porter le chapeau en disant qu'on est des antisémites, ce qui est absolument faux, mais que certains ouvrages, type l'ouvrage de Brenner, Les territoires perdus de la République, qui est cette vision complètement, négative, disant que dans les banlieues, c'est le lieu d'absolument toutes les dérives, notamment l'antisémitisme. Donc vision, nous sommes les Palestiniens de France, ou vision dans les classes moyennes, on n'a rien à voir dans cette histoire, on veut nous faire porter le chapeau, et nous on est très à l'aise là-dessus. Par contre, clairement au niveau de la mémoire, il y a un déficit et on aimerait bien qu'on parle beaucoup plus de nous. Et au pire des cas, la communauté juive, effectivement, on sait qu'on est également dans la même ascension sociale qu'elle, puisque la communauté juive a connu au XIXe siècle, avec peut-être cette affaire Dreyfus qui a fait beaucoup parler d'elle, on est en train de vivre le même parcours d'intégration avec la communauté musulmane et la communauté juive, avec une sorte de décalage d'à peu près un siècle, et on vient un petit peu, j'allais dire, faire de la compétition à cette communauté qui est la dernière arrivée. Alors, peut-être pour conclure, quelques recommandations qu'on a tirées à partir des et de ces travaux dont je vous parlais et de cette expérience que j'ai eue aussi dans cette association de dialogue entre juifs et musulmans. Effectivement, les inéquités du système scolaire, et notamment dans les manuels, donc, est quelque chose qui revient souvent. J'ai interviewé plusieurs amis professeurs qui effectivement confirment que ça reste toujours une appréhension de la civilisation et de l'histoire musulmane plutôt comme religion du sabre et de l'épée, où on évoque assez peu les relations qui pouvaient exister entre différentes capitales ou ce qu'a cité Odon Valley ou ce que j'ai cité au début de cette intervention. Donc ces inéquités du système scolaire, elles passent par le traitement dans les manuels, mais également par quelquefois des préjugés directement porté par les administrations. Alors, des expériences avaient été menées, notamment dans les années 80, les années 90, avec ce qu'on appelait l'effet Pygmalion, que vous connaissez peut-être. Donc l'effet Pygmalion qui tend à dire que des élèves qui sont bien considérés auront de meilleurs résultats, et des élèves mal considérés travailleront mal, etc. Et donc il y a toute un volet qu'on pourrait évoqué en amont dans la formation notamment des professeurs dans les IBFL, donc la formation auprès des corps enseignants, ça commence à se faire, ça se fait toujours, celles à laquelle j'ai participé se sont toujours faites de manière complètement informelle. C'est absolument pas le ministère ou le rectorat qui avait pris l'initiative, mais c'était souvent donc, ce qu'on appelle une sensibilisation donc, aux faits religieux, et donc il y a peut-être autour de la formation notamment en UFM, des choses à faire. Donc, en le temps pas, je vous propose qu'on puisse échanger plus tôt au niveau de la discussion, mais voilà, cette idée qu'il y a aujourd'hui autour de ce thème, une vraie sensibilité et un vrai travail pour garantir la paix sociale, effectivement, à l'extérieur des écoles, mais également à l'intérieur des écoles, j'allais dire, un vrai contexte paisible pour pouvoir enseigner dans des conditions optimales. Merci.
Merci. Je vais prendre la parole quelques instants, étant à Kevin Créteil, représentant ici aussi ce recteur, pour peut-être apporter deux ou trois compléments. Tout d'abord, je vous rassure, il y a quelques banlieues de Créteil qui proposent des choses autour de l'enseignement du fait religieux. Tous les ans, depuis trois ans, nous avons organisé religion et politique, enseigner les monothéismes et tout.
nous avons un partenariat avec l'IESR, l'Institut européen en sciences des religions, et Dominique Borne vient au moins deux à trois fois par an. Cette question est prise en compte dans la formation de l'enseignant. Sur les programmes de seconde, il y a un thème qui s'appelle la Méditerranée au XIIe siècle. On aborde les échanges, notamment on étudie la cour du roi Roger II de Sicile, où on voit effectivement les échanges entre les différentes civilisations. Donc il y a un certain nombre de choses, mais bon, je ne vais pas insister. Je voulais vous dire aussi que dans notre académie, suite à, depuis plusieurs années, cette question est peut-être un peu exacerbée avec les événements du mois de janvier, c'était la guerre au Proche-Orient, mais nos enseignants ont pris depuis plusieurs années un certain nombre d'initiatives. Je pense qu'il y a quelques-unes. Par exemple, il y a une de nos enseignants de lettres qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Hamlet et lettres, et qui est avec William Lesguiche, et qui est montée dans l'académie. Il y a un lycée professionnel, le lycée du Moulin Fondu, qui travaille avec le lycée de l'Alliance, qui est un lycée juste sous notre arbre. Voilà, donc je ne vais pas tout citer, il y a beaucoup de choses aussi qui se font dans notre académie. Effectivement, notre académie.
Du règlement intérieur en fonction des circonstances locales. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans votre établissement. Tout cela étant bien entendu sous le contrôle des autorités académiques et sous le contrôle des juristes. Administrative modifiée. Moi, je vois dans mon quartier beaucoup de lycéens qui sont gaulois et qui ont édifié. Il y a des gens qui considèrent que c'est, je ne sais pas, Laurence d'Arabie, quelque chose comme ça. C'est pas spécifiquement palestinien, mais c'est beaucoup plus une coiffe arabe que palestinienne qui est tout simplement destinée à protéger du soleil. De la même façon, vous savez que les Touaregs ont aussi un genre de vêtements sur les cheveux, puisque les Touaregs, c'est les seuls, les femmes ne sont pas voilées, les hommes sont voilés. Et cette coiffe n'a rien de religieux. Donc, en soi, le chrétien n'est pas religieux. Ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où Yasser Arafat était vu partout à la télévision comme portant ce couvre-chef, on a interprété le pifier comme ayant une signification politique. Mais encore une fois, Laurence d'Arabie avait également, et c'était un anglais pur sucre, et puis on rabelade, c'est mon préféré. Alors, sur ces signes, je préfère une remarque. Tout signe d'appartenance est un signe identitaire. Mais c'est d'une certaine façon aussi un petit aveu de faiblesse. Ça veut dire, il faut absolument que je me distingue, que je me remarque, car sinon on ne le saura pas. Cette revendication de porter quelque chose qui indique qui vous êtes, c'est aussi parce que se sentir au fond de soi-même, musulman, juif, chrétien, ça ne suffit pas. Pour l'extérieur aussi. Alors, à ce sujet-là, il faut soigneusement distinguer les populations scolaires. Il y a des populations scolaires qui cherchent à s'identifier à un peuple, à une religion, à une cause, à une origine. Et il y en a d'autres qui cherchent au contraire à se fondre dans le milieu. Et notamment les jeunes asiatiques. C'est assez extraordinaire parce que je vous signale en passant que si vous voulez des bons exemples de l'école publique laïque qui réussit, il faut aller dans deux villes de Seine-et-Marne qui s'appellent Bussy-Saint-Georges et Logne pour les lycées, puis une troisième pour un collège Saint-Hippolyte. Elles ont en commun de voir une énorme population scolaire métallique. Et alors c'est assez extraordinaire, car c'est comme là contredisent tout ce que je vous ai dit. Ce sont les lycées et collèges publics qui battent à plat couture les lycées et collèges catholiques. Pourquoi? Parce que les jeunes asiatiques cherchent à se fondre au maximum dans la population française, les familles les mettent dans des établissements publics et pas dans des établissements privés catholiques. Alors qu'en Afrique, par exemple, on sait très bien, surtout en Afrique subsaharienne, que les meilleurs lycées sont des lycées privés, souvent catholiques ou protestants. Alors qu'en Asie, c'est l'inverse. Le meilleur lycée du monde en mathématiques et physique aux Olympiades mondiales, maths, physique, chimie, biologie, informatique, c'est ni le grand ni Henri IV, c'est Amsterdam, la Nouvelle. Donc, dans ces pays-là, le public est gage de qualité. Et le public, ça veut dire aussi, on est à l'école publique de son pays, au Vietnam, si j'étais au Vietnam, et maintenant je suis en France. Donc, je me fonds dans la population scolaire française, je me fonds dans le système public scolaire qui exige qu'on n'ait pas un habillement qui trahisse l'orthophonie. Ça, c'est la stratégie asiatique. D'autres stratégies qui, au contraire, cherchent à marquer l'identité religieuse, ethnique, nationale, politique, pourquoi pas des élèves. Mais le Bifié a incontestablement une référence proche orientale, mais en tant que tel, il n'est pas un signe d'appartenance religieuse.
Cela étant. C'est pas ce que j'ai dit.
Oui, oui.
C'est pas ce que j'ai dit.
Et pas forcément palestinienne non plus. Mais. Voilà. Alors voilà, c'est parce qu'on a vu Yasser Arafat à la télévision portrétifié. Mais je vous rappelle que le mouvement national palestinien est d'origine chrétienne.
D'accord, mais moi quand je discute avec
ouais.
Les
Palestiniens,
ouais. C'est un message que nos politiques en place,
bien sûr,
qui me disent, qui me parlent aussi plus de palestiniens, donc c'est pas.
Ah, bien sûr.
Ou alors ils essayent de.
Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Ça, je laisse au chef d'établissement, il y aurait même un intérieur à son entité. Mais je rappelle ce que je disais tout à l'heure, sans un règlement politique.